deuxième temps d'une nouvelle série de La Fabrique de l'Histoire consacrée aux rêves, aux cauchemars et à leur histoire. Oui, les rêves et les cauchemars ont une histoire et c'est ce que nous tentons de vous raconter pendant toute cette série de La Fabrique de l'Histoire jusqu'à jeudi, demain, mercredi. Nous nous demanderons comment le rêve fut longtemps interprété comme une prédiction de l'avenir avant de devenir une relecture du passé. Et jeudi, dans l'émission conclusive de cette série, eh bien nous nous demanderons ce que la psychanalyse peut faire à l'histoire avec Jacqueline Carroix, Hervé Mazurel et Andreas Meyer. Mais aujourd'hui, mardi, jour du documentaire dans La Fabrique de l'Histoire, eh bien nous vous proposons un documentaire d'Anaïs Quin et de Françoise Camas qui s'adresse donc à tous ceux qui ont été intéressés par la lecture du travail de Charlotte Berat, amie d'Anna Arendt, qui a collecté pendant toute la période du nazisme les rêves et les cauchemars de ses contemporains. Elle a collecté des rêves auprès de toutes les couches de la société allemande pendant le nazisme. Son travail est paru ensuite en 1966 en Allemagne, a fait un grand débat après avoir fait quelques émissions de radio en mars 1963 sur les radios allemandes. Charlotte Berat raconte donc ce que le nazisme fait souterrainement à toutes les Allemandes et tous les Allemands de cette période-là. Faire entendre ses rêves, c'est le projet de ce documentaire signé Anaïs Quin et Françoise Camard, avec des lectures signées Anne Steffens et Renaud Bertin et les commentaires de Martine Lebovici et de Johan Chapoutot.
Je raconte une blague interdite, mais je la raconte mal, par précaution. Si bien qu'elle n'a plus de sens.
Par précaution ? Si bien qu'elle n'a plus de sens. Plus de sens.
Je rêve que je me réveille au milieu de la nuit. Je vois que les deux angelots accrochés au-dessus de mon lit ne regardent plus en haut, mais en bas, et m'observent attentivement. Je suis si effrayé que je me glisse sous mon lit.
Rêver sous le Troisième Reich, un documentaire d'Anaïs Quin, réalisé par Françoise Camard.
Je rêve que j'ai un enfant avec un arien et que ma belle-mère veut me l'enlever parce que je ne suis pas purement arienne. Depuis que ma mère est morte, je lui crie, aucun de vous ne peut plus rien me faire.
Charlotte Berat est née en Allemagne dans une famille bourgeoise et juive. Ses études un peu pénibles sont rapidement abandonnées. Elle sera secrétaire dans la presse et auprès d'un avocat, Martin Berat, qu'elle épousera par la suite. L'avènement du Troisième Reich la plonge dans l'effroi et la réduit au silence, tout comme ses amis intellectuels et communistes, dans le Berlin des années 30. C'est en dormant que Charlotte trouve un moyen d'agir. Elle collecte près de 300 rêves auprès des Berlinois, chefs d'entreprise, femmes de ménage ou petits commerçants. Un livre paraîtra bien plus tard, après la guerre, après Auschwitz. Rêver sous le Troisième Reich.
Je suis au cinéma, très grand, très sombre. J'ai peur. En réalité, je n'ai pas le droit d'être là.
Je n'ai pas le droit d'être là, seuls les camarades du parti ont le droit d'aller au cinéma.
Puis Hitler arrive et j'ai encore plus peur.
Je n'ai pas le droit d'être là.
Il y avait dans un certain nombre de rêves des parentés.
Martine Lebovici.
Des schémas qui étaient communs d'un rêve à l'autre. Certes, la production onirique est propre à chaque individu. Toutes les inventions du rêve ont certainement pour chaque individu une signification qui renvoie à sa propre histoire, à son propre désir. Mais en même temps, ce qui est très frappant, c'est que d'un rêveur à l'autre, revenaient des schémas qui dépassaient la psyché individuelle de chacun. Et c'est là qu'elle s'est dit qu'il y a des types de rêves que l'on peut rassembler. Et donc elle a dû faire un choix dans tous ces 300 rêves. Elle a dû prendre les plus caractéristiques d'un type d'élaboration qui lui semblait qu'elle avait elle-même dégagé comme des types.
Johan Chapoutot, lorsqu'on est historien comme vous et qu'on travaille sur l'univers culturel du nazisme et sur cette Allemagne qui se nazifie progressivement à partir du début des années 30, que fait-on d'une matière telle que celle que propose Charlotte Béra dans son ouvrage à travers cette collecte de rêves auprès des Allemands du Berlin des années 30?
C'est une source intéressante parce qu'elle est parallèle, je trouve, à la grande source d'histoire sociale de l'opinion que l'on trouve pour l'Allemagne du Troisième Reich, qui sont les rapports des RG de l'époque, hein, c'est-à-dire les rapports du SD, ce qu'on appelle les Stimmungsberichte, les rapports d'ambiance de la police de sécurité allemande. Là, on a une forme de rapport d'ambiance qui ne consiste pas en notes de synthèse sur les propos tenus au café ou sur ce qui se dit sur les marchés ou sur les blagues qui circulent, mais on a une forme de rapport de synthèse sur l'inconscient, la psyché des Allemands, telle que perçue et notée par une psychanalyste qui accueille des patients et qui recueille leurs rêves. Et c'est très intéressant de voir que ces rêves-là sont envahis par la réalité de ce qu'est le nazisme depuis 1933, de telle sorte que on peut même faire mentir un nazi en lui montrant qu'il était au fond assez peu ambitieux. Il s'agit de Robert Ley. Robert Ley, le Führer du, selon le titre consacré, le chef du service du travail, qui avait dit « nous allons dominer l'espace mental de telle manière qu'il ne restera plus comme moment de liberté que le sommeil aux Allemands ». Et là, on se rend compte que le sommeil lui-même n'est plus un moment de liberté, dans la mesure où, Charlotte Berat le montre dans ses notes, la psyché nazie envahit la psyché des Allemands. Ils en rêvent la nuit.
En compagnie uniquement de blonds aux yeux bleus, un enfant de 2 ans qui ne sait pas encore parler ouvre la bouche pour me dire « Mais vous n'en faites pas partie ?»
Comment avez-vous compris, vous, Martine Lebovici, comment Charlotte Berat a cette idée de collecter des rêves? Comment commence cette collecte?
C'est-à-dire que Charlotte Berat était proche des milieux communistes et elle-même... Enfin, elle dit elle-même dans une de ses correspondances que, à l'époque, elle n'a pas fait cette collecte en tant que juive, mais en tant que communiste. C'est-à-dire que elle conçoit cette collecte comme un acte de résistance, mais elle le fait à partir d'elle-même. C'est-à-dire que dans la revue où elle a publié dans les années 40 son premier texte là-dessus, elle commence par raconter un de ses rêves. C'est-à-dire que c'est elle-même qui a fait un rêve à cette époque-là et qui... Je peux vous le lire, si vous voulez, le rêve. Voilà, le rêve est le suivant. « Je me réveillais trempé de sueur, claquant des dents. Je me réveillais une fois de plus, comme tant d'autres sueur, innombrables nuits, des dents. On m'avait pourchassé en rêve.
Une fois de plus, comme tant d'autres innombrables nuits, on m'avait pourchassé en rêve d'un endroit à l'autre. » On m'avait tiré dessus, torturé, scalpé. Mais cette nuit-là, à la différence de toutes les autres, la pensée m'est venue que parmi des milliers de personnes, je ne devais pas être la seule à avoir été condamnée à rêver de la sorte par la dictature. Les choses qui remplissaient mes rêves devaient aussi remplir les leurs. Fuir par les champs à perdre haleine, se cacher en haut de tours hautes à en donner le vertige, se recroqueviller tout en bas derrière les tombes, les troupes de SA partout à mes trousses.
Sa terreur individuelle, d'une certaine manière, elle est un peu mise à distance en se disant que peut-être elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Et donc c'est un rêve, au fond, qui lui a donné l'idée d'aller demander à d'autres s'il leur arrive pas la même chose.
Et puis entre cette année 1933, d'accès au pouvoir du nazisme en Allemagne, et puis 1939, on assiste aussi à un lent processus d'autocensure de la population allemande. Oui. Donc le rêve est un espace très particulier dans un contexte comme celui-là.
Oui. L'un des chapitres qui m'intéresse beaucoup, il y a ces deux rêves qui me semblent extrêmement intéressants, justement par rapport à cette ambivalence du rêve qui est à la fois comment l'individu s'adapte et comment il y a un espace de résistance. Par exemple, quand un jeune homme, été 1933, donc très tôt, qui rêve ceci.
Je rêve que je ne rêve plus que de carrés, de triangles, d'octogones, qui ressemblent tous à des gâteaux de Noël, parce qu'il est interdit de rêver.
Alors là, c'est absolument extraordinaire parce que il y a cet interdit de rêver et donc il rêve qu'il échappe à la censure en rêvant de choses complètement anodines, des carrés, des triangles, c'est-à-dire des choses qui sont ininterprétables. Mais en même temps, rêver qu'il est interdit de rêver, c'est franchir l'interdit puisqu'on rêve. Par exemple, l'autre rêve aussi, une femme de ménage, à l'été 33, elle rêve ceci.
Je rêve qu'en rêve, par précaution, je parle russe, pour que je ne me comprenne pas moi-même, et que personne ne me comprenne si je disais quelque chose à propos de l'État, parce que c'est interdit et que cela doit être dénoncé. Je rêve qu'en rêve, par précaution, je parle russe. Pour que je ne me comprenne, pas, ne comprenne pas moi-même et que personne ne me comprenne si je disais quelque chose à propos de l'État, parce que c'est interdit et que cela doit être dénoncé.
Alors, je respecte l'interdit puisque je parle en russe et que je ne me comprends pas moi-même, mais n'empêche que si je dis que je ne me comprends pas moi-même, c'est parce que je sais qu'il y a cet interdit et que je dis quelque chose sur l'État. Le processus de pensée que le régime cherche, non pas, c'est pas volontaire, mais c'est vraiment le projet du totalitarisme qui se met en place, c'est, comment dire, de pénétrer la faculté de penser des gens. Mais le rêve est le refuge de la faculté de penser, parce que précisément, il n'est pas tenu par la logique de la non-contradiction, c'est-à-dire que, et c'est vraiment ça la grande découverte de Freud, quoi, c'est que Il peut dire une chose et son contraire. Hein, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, quoi, non ? Qui est extrêmement intéressant sur la capacité psychique de l'humain. Moi, c'est ça vraiment que j'ai appris d'une manière très concrète pour avoir lu, évidemment. Enfin, bon, moi, j'avais beaucoup travaillé Hannah Arendt et je trouve que ça. C'est pas que ça illustre, mais ça vient donner de la consistance aussi aux origines du totalitarisme d'Arendt, qui sont d'ailleurs très présentes pour Charlotte Bérat. Elle s'appuie sur Hannah Arendt quand même beaucoup, mais pas seulement. Il y a aussi toutes ces références littéraires hein, qui ne sont pas seulement... Donc voilà, moi, c'est ça vraiment qui m'a tellement fascinée, quoi. C'est de saisir concrètement ce qu'est un totalitarisme. Et aussi, à quel point là, le rêve est un outil de connaissance. Et elle le dit, elle le relève, Charlotte Bérat. Parce que beaucoup de rêves sont collectés tout à fait au début du régime. Donc, à un moment où il n'est pas complètement en place, où, oui, les choses sont en germe encore presque, même si Hitler est déjà là, mais on sait bien que tout n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça a pris plusieurs années, quand même. Et comment il y a dans les rêves, qui peuvent très bien arriver au début du régime, une espèce de compréhension d'une logique qui est en train de se mettre en place. Et c'est ça qui est très fascinant, quoi. C'est comment le rêve, à un certain moment de l'histoire, est un moyen de connaissance. Alors, c'est pas toujours comme ça. C'est-à-dire, je ne suis pas sûre, par exemple, qu'on pourrait dire que voilà, quelqu'un qui en ce moment rêverait... à partir des restes d'urnes et ferait un rêve politique, je ne suis pas sûre que ça pourrait d'emblée être considéré comme un moyen de connaissance. Mais là, peut-être c'est que ce qui était en train de se mettre en place, c'était quelque chose qui avait à voir avec une espèce de folie, quoi, qui avait à voir à une irrationalité logique, et qu'au fond, le rêve, lui, a des ressources de captation d'une irrationalité logique beaucoup plus grande que la pensée consciente, quoi. Et c'est ça vraiment qui me trouble beaucoup, quoi. C'est comment le rêve peut à un moment être un moyen de connaissance.
Ich bin aus euch selbst herausgewachsen. Bin einst selbst unter euch gestanden. Bin in 4,5 Jahren Krieg wieder mitten unter euch gewesen.
J'ai fait souvent ce rêve. Je vole au-dessus de Nuremberg, j'attrape Hitler au lasso au milieu de la réunion du parti et je le jette à la mer entre l'Angleterre et l'Allemagne. Parfois, je poursuis mon vol jusqu'en Angleterre et j'explique au gouvernement quelquefois à Churchill en personne, où se trouve Hitler et que c'est moi qui l'ai fait.
Charlotte Berat collecte des rêves qui mettent en jeu un système de représentation nazie, une menace ou une peur de mal faire dans le rituel social instauré par le nazisme dès 1933, donc immédiatement.
Oui, alors c'est très tôt et en même temps c'est très tard aussi parce qu'il y a une préparation d'artillerie de 14 ans. Hein, le parti nazi existe depuis 1919 et il est très présent dans l'espace public et mental depuis 1929. L'été 29, c'est le moment du plébiscite, enfin de la campagne du plébiscite contre le plan Young, avec cette arrivée des nazis à la surface publique, si vous voulez. Arrivée qui est confirmée ensuite à l'automne 1929 par la Grande Dépression qui frappe l'Allemagne très violemment. Donc à partir de 1929, le parti nazi qui était résiduel hein, du point de vue du suffrage, hein, 2,5% aux élections de 1928, acquiert une visibilité et une présence énormes. Et donc en 1933, ça fait quand même 4 ans hein, que les nazis, ou 3 ans et demi, que les nazis sont très présents et que les Allemands sont conscients de cette présence. Et cette conscience-là se traduit effectivement dans leur inconscient. La présence nazie, c'est évidemment la présence des thèmes nazis, la liberté de l'Allemagne, la reconnaissance de l'Allemagne comme grande puissance, la préservation du sang allemand, la reprise économique, mais c'est également une forme d'éthos nazi, hein, la violence. La violence comme arme politique ou comme moyen d'expression politique totalement assumé et revendiqué, d'où les peurs que ça suscite, hein, parce que la punition peut être là, physique, violente. La violence comme mode d'expression politique et l'omniprésence par les étendards, les défilés, l'occupation de l'espace, la conquête de l'espace, hein, les quartiers de gauche qui sont conquis par les SA, la présence du drapeau, de l'oriflamme et la présence également de la nuit, hein, des défilés aux flambeaux. Les nazis considèrent que 1918 ou 1919 ne marque pas la fin de la guerre, ni l'armistice, ni le traité de paix, hein, qui est un traité de paix par antiphrase à leurs yeux. La guerre continue autrement. Et d'ailleurs, la supposée paix de Versailles est à leurs yeux la continuation de la guerre par d'autres moyens, moyens juridiques et de tromperie du peuple allemand. Donc les nazis considèrent que toujours déjà, l'Allemagne est en guerre, en 1919, comme en 1925, comme 1928 ou en 1933. Et ils considèrent que leur rôle, un de leurs rôles, c'est d'organiser la communauté du peuple allemand en communauté combattante. D'où la hiérarchisation, l'uniformisation, la caporalisation du parti nazi, qui doit ensuite diffuser à la société allemande à partir de 1933. Et un autre des facteurs de présence du nazisme dans le quotidien des Allemands, dans la rue allemande, c'est non seulement mentalement cette obsession de la guerre et de la mobilisation, qui doit être permanente, mobilisation psychique, intellectuelle, psychologique, vers la guerre, tendre vers la guerre, être conscient de l'état de guerre, et en termes pratiques, cet état de guerre se traduit par la présence des uniformes, soit de manière mobile et libre, un type qui se balade dans la rue en uniforme, soit de manière là, clairement militarisé avec un défilé, une patrouille. Et on voit une inflation de l'uniforme, notamment dans l'espace public, une inflation qui devient une métastase, hein, qui culmine, on va dire, avec l'entrée en guerre en 1939-1940, où là, l'espace public est saturé d'uniformes. Parce que vous avez des uniformes pour tout le monde, l'Allemagne étant une communauté en guerre selon les nazis depuis 1933, le parti et ses organisations ont leurs uniformes, la Wehrmacht, la police ont leurs uniformes, et donc on voit une inflation délirante hein, de l'uniformisation. Également présence nazie dans les drapeaux et les oriflammes qui sont présents partout, pour bien acter la mainmise sur l'espace public, et donc une forme de privatisation, politisation de l'espace public par l'espèce de sceau qui est apposé à la rue, par la croix gammée. Les Français le découvriront à leurs dépens en 1940 avec ces croix gammées partout dans le centre de Paris. Et l'affiche qui est très présente et qui est un médium plutôt très courtisé, très utilisé par les nazis. L'affiche avec son imagerie, très expressionniste et très impressionnante du coup, ses textes et ses slogans, l'affiche qui est un vecteur de diffusion du message nazi très présent dans les rues allemandes.
La nuit, je m'emploie sans relâche à détacher la croix gammée du drapeau nazi. Et j'en suis fière et heureuse. Mais le lendemain, elle est toujours solidement cousue. J'entre dans un magasin. Je regarde avec anxiété la vendeuse aux cheveux blonds clairs et aux yeux bleus et je ne peux sortir un mot. Puis, je remarque en soupirant de soulagement qu'elle a au moins les sourcils bruns et j'ose dire « je voudrais une paire de bas ».
Est-ce que Charlotte Bérat se propose une méthode pour cette collecte, puisque près de 300 rêves collectés, on voit bien que là, elle s'est inscrite au bout d'un moment dans une logique d'enquête.
Effectivement, elle fait une enquête aussi parce qu'elle est journaliste. Elle n'est absolument pas une théoricienne à l'époque. Et en même temps, avoir l'idée d'aller collecter des rêves, pour ça, il faut avoir été frotté à la psychanalyse. Et c'est vrai que dans les milieux qu'elle fréquentait, l'expressionnisme était, comment dire, non pas directement influencé par la psychanalyse, mais en tout cas, il y avait un rapport avec la psychanalyse. Et puis, la psychanalyse était présente aussi dans les milieux intellectuels de Berlin à l'époque.
On comprend comment elle choisit, comment elle rencontre les gens auxquels elle va demander de lui raconter leurs rêves.
Je crois qu'elle ne choisit pas, c'est-à-dire que les conditions ne sont pas là pour faire une enquête scientifique. Enfin, comme fait un sociologue, il fait un échantillon, il regarde les catégories socio-professionnelles. Là, elle n'est absolument pas en position de pouvoir le faire, vu les circonstances. En plus, elle n'a pas accès aux nazis eux-mêmes, aux SS, aux gens qui sont dans le parti. Donc, elle demande à tout le monde qu'elle a autour d'elle, sans aucune méthode, justement, de type sociologique. Elle se dit, je vais en prendre un maximum et puis je verrai bien ce que je vais en faire, quoi.
Il y a deux bancs au Tiergarten, l'un qui est normalement vert, l'autre jaune. Les Juifs n'avaient plus alors le droit de s'asseoir que sur des bancs peints en jaune. Et entre les deux, une corbeille à papier. Je m'assieds sur la corbeille à papier et je m'accroche moi-même autour du cou un écriteau comme en portent parfois les mendiants aveugles, mais aussi comme les autorités en accrochent aux souilleurs de race. Si nécessaire, je cède la place au papier.
Ce qui est étonnant aussi dans cet ouvrage, c'est que elle recueille les rêves aussi bien de certains chefs d'entreprise que d'une boulangère, d'un coiffeur. Elle arrive à couvrir un large spectre de la société allemande. Et tous rêvent avec des motifs communs. Ouais. Cela, c'est très étonnant. C'est-à-dire que tous sont atteints par des motifs psychiques communs par ce nouveau régime.
C'est une traduction onirique ou psychanalytique de la mise au pas, hein, de la Gleichschaltung.
Johann Caputo.
D'ailleurs, le terme de Gleichschaltung, que l'on traduit par mise au pas, veut dire autre chose. C'est vraiment la mise à niveau, la Gleichschaltung, ou l'indexation mécanique ou informatique, désormais, d'un appareil. Et cette indexation, c'est la mise au niveau de tout le monde sur le même plan. Et de ce point de vue-là, une des ambitions du nazisme, c'était de combattre la division de la société en classes telle qu'elle avait été, à leurs yeux, instauré, diligenté par les marxistes, non pas par le capitalisme, mais par les marxistes, qui avaient fait faussement accroire aux Allemands qu'ils étaient divisés en classes, alors que les nazis, au contraire, estimaient et défendaient que les Allemands étaient unis en race. Et donc, un de leurs projets, c'est effectivement de retirer de la surface allemande ce quadrillage classiste, cette division classiste, pour imposer la fusion-confusion de la race contre la classe. Et de ce point de vue-là, effectivement, ces témoignages montrent qu'il y a mise à niveau de toutes les classes sociales sur les mêmes motifs psychiques. Alors, anthropologiquement et psychanalytiquement, ça s'explique. Hein, après tout, que peu importe la répartition sur l'échiquier social, on est tous habités par des désirs et des angoisses qui sont à peu près anthropologiquement égaux ou similaires. Mais il y a en plus, dans les motifs que l'on voit dans ces rêves-là, une présence de l'actualité politique. En l'occurrence, l'importance de la race, l'importance de la norme biologique et juridique, les statuts, la marche au pas, l'enrégimentement, la violence, tout ça est présent chez tout le monde, parce que, de fait, les nazis avaient l'ambition, et ont réussi de ce point de vue-là, de s'adresser à tout le monde.
Goebbels vient dans mon usine, il fait se ranger le personnel à droite et à gauche, je dois me mettre au milieu et lever le bras pour faire le salut hitlérien. Il me faut une demi-heure pour réussir à lever le bras, millimètre par millimètre. Goebbels observe mes efforts comme s'il était au spectacle, sans applaudir ni protester. Mais quand j'ai enfin le bras tendu, il me dit ces cinq mots « Votre salut, je le refuse ». Fait demi-tour et se dirige vers la porte. Je reste ainsi dans mon usine au milieu de mon personnel, au pilori, le bras levé. C'est tout ce que je peux faire, physiquement, tandis que mes yeux fixent son pied beau pendant qu'il sort en boitant. Jusqu'à mon réveil, je reste ainsi.
Donc voilà un rêve de terreur, mais c'est pas parce que quelqu'un fait un rêve de terreur que par la suite, il ne va pas avoir un bon comportement par la suite. Et d'une certaine manière, je crois que, parce qu'elle dit, c'était un homme droit, conscient de sa valeur, il était social-démocrate, et par la suite, il s'est plutôt bien comporté, je veux dire. Donc quel effet ça fait de faire ce rêve? Ça ne va pas faire forcément avoir l'effet que la personne va tout de suite aller s'inscrire au parti nazi. Ça peut aussi avoir l'effet qu'il va mettre les choses à distance aussi parce qu'il les a comprises d'une certaine façon. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'elle a fait ce rêve, elle décide d'aller collecter les rêves des autres, mais que l'effet du rêve sur elle, et du coup cette collecte qu'elle fait, l'aide certainement à se renforcer intérieurement.
Et à agir.
Et à agir, et à agir, et à agir.
Comment s'instaure très concrètement le nazisme, mais dans le quotidien, tes amis?
Alors, dans le quotidien, il y a deux faces. Une face, on va dire, culturelle, psychique, mentale, peu importe les adjectifs qu'on emploie ici. Et une phase pratique plutôt. En termes pratiques, très concrètement, un nouveau pouvoir s'installe en Allemagne à la fin du mois de janvier 1933. Un nouveau pouvoir qui clairement affiche ses ambitions d'être un nouveau régime. Un nouveau régime politique, un nouveau régime culturel, un nouveau régime économique et anthropologique. Et ça passe très concrètement par la fin de la pluralité en Allemagne, à partir de février 1933, l'interdiction des partis, l'instauration d'un parti unique, la fin de la pluralité syndicale, de la presse, la restriction extrême de la liberté d'expression, voire sa disparition, par le remplacement de l'état judiciaire par un état policier, par l'épuration de la fonction publique, par l'invasion métastatique des signes nazis dans l'espace public, affiches, drapeaux, oriflammes, uniformes, etc., par la loi nazie qui s'impose par la violence, hein, par les milices, par les patrouilles, par les défilés, par les coups. Ça passe par tout cela et par cette espèce de monolithisation de l'espace public qui devient totalement univoque. Univoque au sens étymologique du terme. L'équivoque démocratique, c'est la pluralité n'a plus cours. Maintenant, on a une forme d'univocité partidaire et idéologique. Et en termes mentaux, en termes culturels ou psychiques, il y a une forme de précipitation au sens chimique du terme, hein, d'idées qui font le discours nazi et qui recueillent une crédibilité accrue du fait de l'arrivée au pouvoir, du fait de la mise en œuvre des premières mesures, du fait des succès aussi que rencontrent les nazis économiquement, diplomatiquement, militairement, etc. Et là, c'est très important, très intéressant, parce qu'on se demande souvent comment un peuple de grande culture, qui est le plus alphabétisé au monde, etc., a pu consentir à ou adhérer au nazisme. Alors que lorsqu'on se penche concrètement sur les idées ou les mots, les rêves, les aspirations qui tissent le nazisme, qui tissent la vision du monde nazi, on se rend compte que ce sont des idées, des mots, des images, des ambitions très banales dans l'Allemagne et dans l'Occident de cette époque.
Il est interdit sous peine de mort
d'écrire quoi que ce soit qui ait à voir avec les mathématiques.
Je me réfugie dans un bar. De ma vie, je n'ai pénétré dans un tel lieu.
Les ivrognes chancellent, les serveuses sont à demi nues,
l'orchestre gronde.
Je tire de ma serviette
du papier très fin pour y inscrire à l'encre invisible un couple d'équations dans une angoisse mortelle.
Lorsqu'on lit l'ouvrage de Charlotte Bérat, on a la sensation qu'il n'y a pas d'évolution. Pas tant que ça, finalement. Il n'y a pas de moment de rupture ou d'aggravation entre 1933 et 1939 dans les rêves de ceux qu'elle rencontre.
En fait, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'aggravation, parce que les nazis font peur à beaucoup de gens en 1933, ils font peur à beaucoup moins de gens en 1939, en l'occurrence. En 1933, ils font peur parce que c'est un saut dans l'inconnu, parce que les nazis se sont singularisés dans le spectre politique, dans la vie politique allemande, par une violence assumée, singulière et revendiquée. Alors qu'en 1939, que s'est-il passé ? Il s'est passé 6 ans de prospérité, de quasi-prospérité économique, 6 ans de retour à la puissance diplomatique, militaire, retour à une forme d'estime de soi, 6 ans également de prospérité sociale et sociologique, avec les congés payés, avec les assurances sociales, avec une fiscalité très avantageuse. Ceux qui peuvent cauchemarder encore et toujours en 1939, ce sont ceux qui sont irréductibles malgré eux, parce qu'ils sont condamnés par leur biologie, les juifs, qui sont à l'écart de la communauté allemande. Ce sont les irréductibles politiques, ceux qui ne veulent pas prendre conscience qu'un ordre nouveau est advenu et qu'ils sont invités à se taire, les communistes incurables, les sociodémocrates impénitents. Mais pour un Allemand qui est considéré de bonne race, considéré être un Germain, et qui se tait, la vie est belle sous le Troisième Reich, et d'ailleurs les Allemands de l'époque le disent.
Il y a des rêves qui partent des éléments bureaucratiques, c'est-à-dire des papiers, de l'administration, voilà, il y a ça. Il y a des rêves aussi qui impliquent des architectures, et en particulier de la chute des murs, c'est-à-dire que les intimités, les intérieurs sont surveillés. Et le rêve invente des dispositifs de surveillance les plus loufoques, même parfois, à partir effectivement de ce qu'on appelle des restes diurnes de chacun des rêveurs. Il y a des rêves où l'individu se vit lui-même comme voulant résister et où le rêve le ridiculise. Et il y en a un certain nombre comme ça.
Après mes consultations vers 9h du soir, au moment où je m'apprête à m'allonger tranquillement sur mon sofa avec un livre sur Matthias Grünewald, la pièce, mon appartement, perdent brusquement leurs murs. Effrayé, je regarde autour de moi. Aussi loin que porte le regard, plus de murs aux appartements. J'entends un haut-parleur hurler, conformément au décret sur la suppression des murs du 17 de ce mois.
Je fournis au bureau de certification de l'arianité une attestation concernant ma grand-mère pour l'obtention de laquelle j'ai couru pendant des mois. L'employé, qui ressemble à une statue de marbre et est assis derrière un mur, tend le bras par-dessus ce mur, prend l'attestation, la déchire en morceaux qu'il brûle dans un foyer installé dans le mur. Et maintenant, est-ce que tu es encore purement arienne ?
Rappelons que les certificats d'arianité sont obligatoires dans l'état civil pour prouver qu'on n'est pas juif, pour toutes sortes de démarches, pour rentrer dans la fonction publique, ne parlons même pas de rentrer dans le parti, dans les organisations du parti, mais le certificat d'arianité est un document très important. Alors dans ce rêve, on a plusieurs choses. D'ailleurs, on a toute, comment dire, l'ambiguïté, la polysémie du mot rêver, qui se retrouve en allemand d'ailleurs, c'est la même polysémie. Rêver, ça peut soit signifier être habité par un rêve, être visité par un rêve, de manière passive donc, mais ça veut dire aussi tendre activement vers quelque chose. J'ai rêvé de, j'en rêve, je rêve de cela. Et là, on a les deux phénomènes dans le rêve de cette Allemande-là. Elle a non seulement été visitée par un songe qui peut être désagréable, elle est face à une statue qui lui déchire son certificat d'arianité, mais en même temps, elle rêve d'être arienne. Elle rêve, elle aussi, de ressembler à la statue. Et ça, c'est très intéressant pour l'historien, parce que les nazis avaient un clair désir, un clair projet également, de fasciner les Allemands. Et ce livre de Peter Reichel, qui date des années 80, le montre très bien, La fascination du nazisme, où Peter Reichel montre que les nazis ont développé tous les instruments qui étaient à leur disposition pour donner une, ce qu'il appelle une belle apparence à leur régime, c'est le titre en allemand de son livre, Der Schöne Schein, une belle apparence, pour susciter une passion positive, un désir, un eros, une fascination, hein, le fascinum, hein, bon. Donc une fascination, un eros, un désir pour cette communauté du peuple. Jeune, brillante, musclée, dynamique, etc. Pour ce régime scintillant, chatoyant, heureux, etc. Et on voit que ça marche dans les rêves. Et on le voit par exemple dans ce rêve de cette berlinoise. L'omniprésence des statues à l'antique est attestée, hein, sous le Troisième Reich. Ce goût néo-antique pour le nu guerrier antique, par exemple, qui est en même temps posé et imposé aux Allemands un type physique auquel il fallait ressembler. Et Hitler le théorisait très bien lui-même en disant, voilà, une statue, c'est pas qu'une statue, c'est un objet de désir, et c'est quelque chose qu'on va vouloir imiter. Et là, on retrouve ça dans le rêve de cette Allemande. Elle ressemble peut-être pas à une statue, mais elle aimerait tellement ressembler à cette statue. Et il se trouve que l'instance normative qu'elle a en face d'elle, ce fonctionnaire avec son tampon qui dispose d'un pouvoir exorbitant sur elle, qui déchire son certificat d'arianité, il se trouve que ce fonctionnaire-là, dans son rêve, ressemble à une statue. Comme elle, elle aimerait avoir cette apparence-là.
Martine Lebovici.
C'est vrai qu'aller demander aux gens de lui raconter ses rêves, dans un moment où le totalitarisme nazi veut contrôler complètement les relations entre les gens, parce que c'est ça qui ressort aussi des rêves, c'est comment les individus sous le totalitarisme, ce qui est atteint dans leur existence, ce sont les relations avec les autres, puisqu'il y a beaucoup de, dans beaucoup de rêves, il y a des visages inexpressifs, c'est-à-dire qu'il arrive quelque chose à quelqu'un et il y a autour comme ça des espèces de spectateurs vers lesquels ce quelqu'un terrorisé veut se tourner, mais il y a des visages inexpressifs, c'est-à-dire une absence de relation entre les gens. Puis même à un moment, il y a quelqu'un qui rêve qu'à partir d'un certain moment, on ne peut parler que tous en cœur. Et alors parler tous en cœur, ça veut dire ne pas parler les uns avec les autres. Et donc c'est vrai que ce qu'elle fait là, c'est d'instaurer avec d'autres un type de relation qui échappe au régime. C'est ça, au fond, la résistance qu'elle instaure. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que même s'il y a marqué nulle part, il est interdit de demander aux gens de quoi ils rêvent, nulle part. Mais n'empêche qu'elle se rend bien compte que si le régime trouvait ses rêves racontés, elle pourrait être envoyée en camp de concentration. C'est ça qui est effectivement très étonnant, c'est-à-dire qu'il n'y a nulle part écrit qu'on n'a pas le droit de faire ça. Et après tout, dans une autre situation, ça ne représente aucun danger politique que d'aller demander aux gens de quoi ils rêvent. Mais là, oui. Et elle sait, et effectivement, elle a parfaitement raison. Ce qui était interdit, effectivement, c'était la propagande de l'horreur. Quelqu'un qui, par exemple, dans les années 35-36, faisait savoir ce qui se passait dans la répression, les arrestations, etc., à d'autres, était, passible d'une condamnation pour Grauel Propaganda, c'est-à-dire propagande de l'horreur. Et donc, elle se rend compte que c'est sous ce chef d'inculpation-là qu'elle pourrait être inquiétée. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, avant de partir d'Allemagne, elle envoie dans des lettres à l'étranger ou dans des livres où elle met des feuillets contenant des récits de rêves. Et effectivement, elle va les récupérer en Angleterre.
Je rêve que je m'installe solennellement à mon bureau après m'être enfin décidé à porter plainte contre la situation actuelle. Je glisse une feuille blanche, sans un mot dessus, dans une enveloppe, et je suis fière d'avoir porté plainte. Et en même temps, j'ai vraiment honte. Une autre fois, j'appelle la préfecture de police pour porter plainte, et je ne dis pas un mot.
Göring en personne inspecte mon bureau et m'adresse un signe de satisfaction, ce qui malheureusement me fait très plaisir, bien que je pense à part moi, le gros port. Les SA posent du fil de fer barbelé. Les SA posent du fil de fer barbelé aux fenêtres des hôpitaux. Laissez faire s'ils viennent sur mon département. Laissez faire s'ils viennent dans mon département avec leur barbelé. Je me laisse pourtant faire. Je me laisse pourtant faire. Je suis là comme une caricature de médecin lorsqu'ils enlèvent les vitres et transforment une chambre d'hôpital en camp de concentration avec barbelé. Et pourtant, je suis renvoyé. Mais on me rappelle pour soigner Hitler parce que je suis le seul au monde à en être capable. Honteux d'en être fier, je me mets à pleurer. Je suis dans un camp de concentration, mais tous les prisonniers se portent très bien. Des dîners sont organisés. Il y a des représentations théâtrales. Je me dis que c'est donc très exagéré ce qu'on rapporte à propos des camps. Et c'est alors que je me vois dans un miroir. Je porte l'uniforme d'un médecin de camp, des bottes à tiges spéciales qui brillent comme des diamants. Je m'appuie sur le fil barbelé et je recommence à pleurer.
Je dois fuir avec maman. Nous courons comme des folles. Elle n'en peut plus. Je la prends sur mon dos et je continue à courir. Je souffre horriblement sous la charge. Après un long moment, je découvre que je souffre du poids d'une morte. Un sentiment effrayant de soulagement s'empare de moi.
Moi, ce que je sais, c'est qu'elle a été donc mariée à Martin Bérat en 1939, avant d'émigrer. Donc, ils ont fui en Angleterre. Et d'Angleterre, ils ont pu partir aux États-Unis. Et Martin Bérat est mort assez vite après leur arrivée aux États-Unis. Et là, elle avait très peu de moyens d'existence. Et pour vivre, elle a monté à New York un salon de coiffure dans lequel elle faisait les mises en plis des femmes émigrées aux États-Unis, juives et allemandes. Il y avait là tout un cercle d'émigrés qui était autour d'eux. Et Charlotte Bérat, dans un premier temps, ne se sentait pas du tout être écrivain. Elle avait ses rêves, mais voilà, elle savait pas très bien quoi en faire. Carl Hutton et ensuite Helen Hutton l'ont soutenue, décidée à utiliser, enfin évidemment à utiliser son matériel, mais surtout à en faire un livre qu'elle construit. Voilà, et je crois que c'est là qu'elle avait 65 ans quand même quand elle a fait ce travail. Elle a acquis là une légitimité d'auteur. Alors il y a peut-être une chose aussi qui me paraît importante dans la constellation d'éléments qui ont, à mon avis, suscité la possibilité de ce livre. On est dans les années où l'administration allemande, en lien avec Ben Gurion, donc le président de l'État d'Israël, met au point le système des réparations. C'est-à-dire que dans ces années-là, effectivement, il y a des accords entre Israël et l'Allemagne. Et là, elle obtient des réparations. Bon. Et elle se demande que faire avec cet argent. Charlotte Bérat va cesser ses activités de son salon de coiffure dans son appartement. Et donc, elle se retrouve avec du temps. Et en même temps, comme elle est prise avec Carl Hutton et les gens avec qui elle est en relation, avec cette idée de ne pas oublier un certain nombre de gens, de publier leurs textes, etc., elle est quand même toujours prise dans une espèce de dette à l'égard de ceux qui ont disparu, à l'égard de ceux qui ne sont plus publiés. Et au fond, c'est une manière pour elle d'utiliser son temps
et cet argent
à faire quelque chose qui va, d'une certaine façon, lui permettre, non pas de régler sa dette, mais en tout cas de faire quelque chose qui a un lien direct avec son immigration, quoi, avec son expulsion d'Allemagne. Faut pas oublier que le livre est publié en 1966. Bon, effectivement, on est quand même après le procès Eichmann, et c'est vrai que c'est l'événement du procès Eichmann qui a aussi commencé à déclencher un certain nombre de recherches en histoire. C'est au procès Eichmann que la question du témoignage a été relancée d'une manière qui n'avait pas été le cas avant. C'est-à-dire, on est au tout début, effectivement, du souci de témoignage direct des victimes, quoi, des gens qui ont vécu la période.
À l'angle du grand magasin de l'Ouest, un des lieux les plus animés de Berlin, je m'évanouis continuellement. Aucun des passants ne me relève, aucun ne me jette même un regard. Je cherche désespérément à comprendre, tout en étant évanoui, comment ils savent qu'ils doivent me laisser ainsi, qu'ils n'ont pas le droit de s'occuper de cette personne au sol, parce que je suis croyante. Ils laissent la personne allongée. La lettre que je tenais à la main, ils l'ont ramassée. Je m'en aperçois quand je me relève, sans que quiconque ne se soucie de me voir chanceler. Je suis vraiment soulagée quand je constate que la personne la plus proche de moi, une marchande de journaux assise dans une petite voiture, est paralysée et ne pouvait donc me porter secours.
Le livre de Charlotte Bérat est publié pour la première fois au milieu des années 60, en 1966 exactement. Et que peut apporter peut-être cet ouvrage au moment où il paraît ?
Bah, les années 1960, c'est un contexte où il y a des interrogations accrues sur le rôle des Allemands dans la dynamique nazie. Ce qui a été adopté comme herméneutique du phénomène nazi et comme pontosane à partir de 1945, dans un contexte de guerre froide où on voulait faire du peuple allemand un allié soit contre l'impérialisme américain, soit contre la Russie soviétique, cette doxa-là, adoptée après 1945, c'est une doxa d'affranchissement du peuple allemand. Hein, une poignée de criminels a été responsable du crime nazi, contre le peuple allemand, à la limite, qui aurait été presque victime de la chose, et de fait, il a été victime à bien des égards. Mais avec le recul du temps, les années 60 marquent une rupture. Il y a le procès Eichmann en 1961. On voit que le criminel nazi archétypal n'est pas celui qu'on croyait. On croyait avoir devant soi un fanatique monstrueux. On a apparemment, je dis apparemment parce que Eichmann joue un rôle de composition à Jérusalem devant le tribunal parce qu'il pense pouvoir sauver sa peau, mais on a apparemment, c'est-à-dire en apparence et en mondiovision, l'image de quelqu'un qui n'est pas un criminel par excès de fanatisme ou de monstruosité, mais qui est un criminel par défaut d'empathie, défaut d'intelligence, défaut d'humour, défaut de présence, de charisme. Et donc on s'interroge sur la normalité, c'est évidemment ce dont parle Hannah Arendt quand elle parle de banalité du mal, qui est entre autres une normalité du mal, normalité sociale. Il y a également tous les procès de subalternes qui s'organisent dans l'Allemagne des années 60, procès des Einsatzgruppen, alors ça c'est fait depuis la fin des années 50, procès également des gardiens d'Auschwitz à Francfort au milieu des années 60, et il y a donc interrogation sur le degré d'adhésion, enfin, de consentement à minima, ou d'adhésion au maximum, au projet nazi de la part de la population allemande. Et dans ce contexte-là, la parution de cet ouvrage en 1966 est une parution d'opportunité, hein, parce qu'il y a un climat intellectuel de réflexion sur l'homme moyen allemand, sur sa psyché, précisément, son psychisme, son adhésion, son consentement ou pas. On se détache de la préoccupation des grands criminels, certains grands criminels comme Eichmann apparaissant d'ailleurs comme des hommes moyens, pour s'intéresser précisément à l'homme moyen. Et dans ce contexte-là, effectivement, elle trouve audience en parlant des rêves de tout un chacun. Et parler du rêve, c'est parler également de quelque chose qui n'induit pas de jugement de valeur. Vous pouvez juger quelqu'un sur son adhésion, le fait qu'il ait pris sa carte, qu'il était membre de la SS ou de la SA, etc. Sur un rêve, c'est une réalité anthropologique tellement à la fois permanente, universelle et intime, qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Hein. C'est l'inconscient qui parle, et de ce point de vue-là, ça pouvait à la fois revêtir un intérêt pour explorer la psyché de l'homme moyen allemand du Troisième Reich, et en même temps induire une forme d'affranchissement ou de déculpabilisation. Si on rêvait du surhomme nazi, après tout, ben, on n'était pas responsable, c'était comme ça. Et ça pouvait, par le biais à la fois de l'investissement de la propagande et de l'anthropologie, et de l'étude de l'inconscient dédouané.
On fête le jour de l'unité de la nation. Dans un train en marche, au wagon-restaurant, de longues rangées de voyageurs sont assis à de grandes tables. Je suis assise seule à une petite table. Un champ politique me paraît si désopilant que je ne peux qu'éclater de rire. Je m'assieds à une autre table, mais je ne peux à nouveau qu'éclater de rire. Ça ne sert à rien, je me lève et m'apprête à sortir, quand je me dis « Ce n'est peut-être pas si désopilant si on chante. » Et je chante avec les autres.
Finalement, Charlotte Bérat arrive à trouver un moyen d'agir à un moment où la population allemande, pour une partie en tout cas, est de plus en plus paralysée par la conjoncture politique. Et elle trouve un moyen d'agir relativement original finalement.
Voilà. C'est-à-dire, c'est vrai que du point de vue de l'action, elle a inventé quelque chose. Elle a vraiment inventé un moyen d'agir toute seule, quoi. C'est vrai.
À partir de ce qu'il y a de plus individuel, voire individualiste et d'intime, en tout cas, Charlotte Bérat, à son niveau, par ses discussions, par son travail d'écriture, refait de la politique, ou refait du politique, en l'occurrence. Ou plutôt refait du politique contre la politique nazie, qui est une anti-politique. Voilà.
Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen.
J'ai raconté un cauchemar que j'ai fait à la fin de mon habilitation, au moment de l'apparition de la loi du sang. Je rencontrais Himmler, on était à la fin 1944, je rencontrais Himmler qui était un peu défraîchi et qui n'allait pas très bien, et qui était catastrophé, et qui en pleurant me disait « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et là, en écoutant que mon humanité, je le prenais dans mes bras pour le consoler, et je lui tapé sur l'épaule pour lui dire « Mais ne t'inquiète pas, tu as cru bien faire. » Et là, je me suis rendu compte de deux choses. C'est que, un, c'était le travail que j'avais fait pendant mes recherches sur la loi du sang. Comment ces gens-là avaient-ils pu croire qu'ils avaient fait quelque chose de bien? Donc oui, tu as cru bien faire. Et c'est tout le sens de cette recherche qui est faite sur la loi du sang. Et deuxièmement, comme on est toujours, plus ou moins encore les psychanalystes, les personnages, tous les personnages de son propre rêve, celui qui disait « qu'est-ce que j'ai fait ?» c'était moi aussi. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Me plonger dans le discours nazi, aller voir les ressorts de légitimation et de justification de ces gens-là, pourquoi? Et j'en étais moi-même catastrophé. Voilà. Depuis, je suis en thérapie, hein, ça va mieux.
Merci à Martine Libovici et Johan Chapoutot. Lecture, Anne Stephens et Renaud Bertin. Prise de son, Philippe Mercher. Mixage, Julien Douminc. Rêver sous le Troisième Reich, un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Françoise Camard.
Demain, nous continuons notre série consacrée aux rêves et aux cauchemars et à leur histoire, en nous demandant comment le rêve a pu être interprété aussi longtemps comme une prédiction de l'avenir, alors qu'il est aujourd'hui considéré comme une façon de relire son propre passé. Nous verrons cela avec nos invités de demain, mercredi. Comme d'habitude, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission aussi longtemps que vous le souhaitez sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez aussi discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC.